Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Constance Bien-Aimée, l'organisatrice du Printemps des sciences humaines et sociales, et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette troisième rencontre intitulée Pourquoi philosopher sur le végétal? Alors avant de démarrer, quelques indications pratiques. La rencontre se fera en deux temps. D'abord, une conversation entre Jean-Luc Guichet, Sophie Gerber et Quentin Yernaux pendant à peu près 45 minutes, suivie d'un temps d'échange avec le public. Et pour cela, je vous invite à nous faire remonter vos questions via le fil de discussion instantané en cliquant sur Converser. Voilà, alors je tiens à remercier évidemment très chaleureusement Quentin Yernaux, Sophie Gerber et Jean-Luc Guichet pour leur intervention et je leur cède maintenant la parole. Je vous souhaite une très bonne rencontre.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette rencontre et débat donc autour d'un livre sur l'initiative de Constance Bien-Aimée, donc livre qui, comme vous le savez, s'intitule Philosophie du végétal, publié chez Vrin dans la collection des Annales de l'Institut de philosophie de Bruxelles en 2018. Alors, je vais détailler un petit peu hein, pour vous donner les titres des chapitres du livre ainsi que le nom des contributeurs. Donc, je chausse mes petites loupes pour cela. Alors, voilà, donc, l'introduction donc par Quentin Yernaux et Benoît Timmermann, auquel succède donc après un premier chapitre hein, qui est une sorte d'ouverture donc du champ philosophique. Donc, par Quentin Yernaux, pourquoi et comment philosopher sur le végétal. Ensuite, c'est Denise Diacre van der Pellen, donc Cise entre deux chaînes, les recherches de morphologie et d'anatomie comparée de Barthélemy Dumortier, 1797. 1878. Ensuite, Jean-Marc Drouin, L'abbé Coste et la fleur de France. Francis Allais, Un arbre tout neuf, trois idées neuves au sujet des arbres. Sophie Gerber, Les plantes cultivées cachent-elles la forêt? Ensuite, Michael Marder, Pour un phytocentrisme à venir. Emmanuel Coccia, Le jardin cosmogonique. Benoît Timmermann, Passer comme un arbre pour une éthique de la transmission. Donc, rapidement maintenant, présentons les intervenants d'aujourd'hui, donc Sophie Gerber et Quentin Yernaux. Sophie Gerber est agronome, elle est docteure en biologie, elle est chercheuse à l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, qui est la nouvelle appellation de l'ancienne INRA, hein, auquel donc s'est ajoutée donc la préoccupation environnementale, hein, Institut national de recherche agronomique. Donc, et maintenant pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Donc, Sophie Gerber travaille sur la génétique des plantes. Elle a étudié en particulier les arbres forestiers et plus récemment, elle s'est formée à la philosophie de la biologie et l'a intégrée donc à son travail de chercheuse. Quentin Yernaux, qui a donc co-dirigé l'ouvrage avec Benoît Timmermans, est chargé de recherche au Fonds de la recherche scientifique, FNRS. Et il enseigne à l'Université libre de Bruxelles, où il a soutenu une thèse de philosophie sur l'individualité du végétal. Ses recherches portent sur l'histoire et l'épistémologie des sciences végétales et se concentrent sur la problématique des comportements des plantes. Ses travaux concernent plus généralement le statut de la plante à travers l'histoire de la philosophie et, de manière plus générale, dans l'éthique de l'environnement. Alors, moi-même, très brièvement, je suis donc Jean-Luc Guichet, enseignant-chercheur en philosophie à l'UPJV, Université de Picardie-Jules Verne, plus précisément à l'INSPE, Institut national supérieur du professorat et de l'éducation. Et je me partage entre trois pôles de recherche. D'une part, le XVIIIe siècle, pris dans l'ensemble de ses aspects philosophiques, littéraires, scientifiques. D'autre part, le rapport de l'homme à la nature, plus précisément le rapport à l'animal et à l'environnement. Et enfin, la philosophie de l'éducation. Donc, c'est-à-dire que comme je travaille sur la question donc, du rapport de l'homme à la nature, et particulièrement sur les thèmes de l'animal et de l'environnement, du début de l'époque moderne jusqu'à nos jours, donc cela explique pourquoi mon intérêt a tout de suite été accroché par le livre et par la question donc, du végétal, à la fois en continuité et en même temps moins habituel pour moi. Donc j'en profite d'ailleurs pour remercier Constance Bien-Aimée de m'avoir invité donc à animer ce débat. Mais en fait, par rapport à l'animal, que j'ai travaillé davantage, hein, l'intérêt de ce thème du végétal, c'est qu'il est loin d'en être une simple extension de ce thème de l'animal. Au contraire, il remet en question beaucoup d'idées que l'on peut développer dans le cadre de cette réflexion sur l'animal Et c'est le fort intérêt de ce livre, car on comprend qu'ici comme ailleurs, en quelque sorte, un train peut en cacher un autre. L'animal, en quelque sorte, peut cacher le végétal en constituant une référence première pour nous, pour penser le vivant en général, alors que le végétal, plus discret au départ, nous fournit en fait d'autres angles pour appréhender le vivant et son monde. Spontanément, nous généralisons notre expérience de l'animal. Certainement parce que c'est ce qui nous est le plus proche dans le monde du vivant. Et nous en faisons un modèle dominant. Alors qu'en fait, il ne s'agit que d'une variante particulière du vivant, comme nous le montre bien le végétal. Et ainsi, alors qu'on croit, en s'intéressant à l'animal, avoir pris distance avec le modèle humain, le fameux anthropomorphisme, on découvre que l'animal peut lui aussi s'interposer comme un modèle inaperçu, un modèle animalo ou zoocentré, en quelque sorte, comme un biais qui oriente notre regard et qui l'empêche de pleinement saisir ce que le végétal dans le monde vivant peut avoir non seulement de propre, mais aussi peut-être d'instructif pour notre compréhension générale du vivant. Mais de toute façon, plus généralement, ce qui touche les plantes intéresse spontanément et de façon très partagée. Notamment, sans doute, du fait d'un curieux mélange qui peut peut-être constituer notre point de départ. C'est que les plantes, en effet, représentent un univers à la fois d'une extrême familiarité, qui nous donne un sentiment de sécurité, d'apaisement. Nous recherchons tous les jardins, les plantes d'intérieur, etc., la promenade dans les forêts, et en même temps, une impression d'une extrême étrangeté, car c'est une forme vivante, si l'on y réfléchit un tout petit peu, qui semble totalement différente de nous. On peut essayer d'imaginer, peut-être illusoirement, ce que ça peut faire que d'être un animal. À tort ou à raison, nous avons l'impression de pouvoir le faire, même si c'est bien sûr relatif selon les espèces. Il est plus difficile de s'identifier, enfin, il est plus facile de s'identifier à un grand singe, par exemple, ou à un mammifère qu'un ver de terre, qu'un invertébré, etc. Il y a un article très connu d'un philosophe américain, Thomas Nagel, de 1974, qui est intitulé « What is it like to be a bat ?» Qu'est-ce que ça fait d'être une chauve-souris, qui est paru dans la revue américaine The Philosophical Review. Donc, bien sûr, mais en même temps, on a l'impression, une possibilité d'identification à l'animal, on a l'impression de pouvoir se projeter. Mais en revanche, il nous est d'emblée inconcevable d'imaginer, même approximativement, ce que ça peut être que d'être une plante. Donc, les plantes nous offrent l'intérêt et l'opportunité d'une réflexion qui nous permettent de descendre d'un cran dans nos références habituelles. De l'homme à l'animal, la transition nous est familière, tant l'homme s'est toujours pensé plus ou moins par rapport aux animaux, en opposition ou en continuité. Mais avec la plante, on passe à un référent qui nous décentre radicalement et qui opère une rupture tranchée. Le végétal est dans notre monde de façon immémoriale et en même temps est un autre monde, nous ouvre sur un tout autre monde dans le monde. Alors la projection où la réduction anthropomorphique se fait bien plus difficile, on se retrouve dans une étrangeté qui n'offre plus de prise, qui nous contraint à nous déprendre de nos repères habituels et à trouver d'autres modèles de pensée. Dans les parages de l'animalité, l'homme reste encore d'une certaine manière chez lui, tandis qu'avec le végétal, il se confronte à l'étrangeté déroutante d'une vie qui semble tout à fait autre, beaucoup moins individualisée, beaucoup plus compositionnelle, plus intégrative, environnementalisée. Les dimensions ouvertes à la réflexion par la question du végétal sont donc multiples. Elles touchent à la fois l'ontologie, les catégories par lesquelles nous pensons le monde vivant autour de nous et le monde tout court. Elles touchent également notre rapport à nous-mêmes et à ce qui nous entoure, c'est la question de la place de l'homme et de ses attitudes spontanées vis-à-vis des plantes. Et enfin, elle est d'ordre éthique. Que faisons-nous à l'égard des plantes et quelle piste éthique la réflexion sur le monde végétal peut-elle peut-être nous suggérer? Le thème végétal recèle ainsi une véritable puissance de questionnement qui a été longtemps négligée, et on comprend ainsi pourquoi, depuis quelques années, la réflexion philosophique s'est intéressée de façon plus vive et nouvelle au monde végétal, dans le sillage d'avancées scientifiques majeures dans ce domaine qu'il nous faudra également signaler. Alors nous commencerons par la question des catégories que le végétal nous force en quelque sorte à élargir et peut-être à renouveler ces catégories que nous avons forgées sur la base de notre expérience de nous-mêmes et des animaux, présente le vivant ainsi avant tout comme une individualité. Or, les plantes, apparemment, nous offrent autre chose. Est-ce que nous pouvons préciser? Voilà, ce sera donc le premier angle par lequel nous aborderons le thème, celui des catégories. Y a-t-il une autre ontologie possible que celle de l'individuation? Ce thème de l'individualité, qui pour nous est la figure qui enclôt le vivant, est-elle à remettre en question à travers les plantes? Donc, je lance donc la question. Donc, Sophie, Quentin, est-ce que vous pouvez donc nous reprendre au bon cette question? Donc, des catégories en général qui se trouvent bouleversées, sous lesquelles nous pensons le vivant, et en particulier donc la question de l'individualité, si nous pouvons commencer par celle-ci.
Quentin, tu veux que je commence pour parler de nous, en fait, tous les deux. Parce que Quentin, merci pour cette introduction, Jean-Luc. Quentin et
Merci.
moi, on s'est rencontrés autour de l'individualité végétale, de l'éco. Parce que Quentin travaillait sur sa thèse à l'époque, donc il y a 7 ans, si je ne me trompe pas. Il travaillait sur une thèse sur cette question, l'individualité chez les plantes. Et moi, je travaillais sur un master, bien plus tardivement que lui, dans un cours de vie, sur la même question de l'individualité chez les plantes. Et c'est une question tout à fait passionnante et très riche, dont nous pourrions consacrer l'ensemble de la discussion, je pense, sans problème. Alors, que dire là-dessus? En fait, j'ai quand même envie de parler d'individu. C'est pas gênant, peut-être, de commencer par ça, puisque c'est une catégorie majeure de notre façon de voir le monde. Et que si je pose la question aux participants de cette conférence, qu'est-ce que c'est pour vous qu'un individu? Et que ces participants me répondent, ils vont probablement me décrire quelque chose qui ressemble à un être humain. Et ce quelque chose qui ressemble à un être humain peut bien s'appliquer à un chien, un chat, une vache, des animaux domestiques, entre guillemets, à toutes sortes d'animaux, donc des vertébrés, des mammifères qui nous ressemblent, d'un point de vue biologique déjà. Et donc les critères d'individualité, que je ne vais pas détailler ici, parce qu'on va rentrer dans des choses un peu trop précises, vont s'appliquer sans problème à ces mammifères, à ces vertébrés. En revanche, si je vous donne une plante, effectivement, les critères que vous allez me donner ne vont pas fonctionner. Individualité, individu, ça veut dire individu homme au départ, en latin, ce qui veut dire qu'il ne se découpe pas en morceaux, qu'il ne peut pas se diviser. Alors, effectivement, vous comprenez facilement qu'un vertébré comme nous, mammifère, on ne peut pas le découper sans faire de gros dégâts. En revanche, si vous prenez une plante, vous savez très bien que vous êtes capable de faire des boutures, des marcottages, donc de multiplier la plante de façon végétative sans pour autant mettre à mal sa vie. Donc il y a déjà une idée d'individu homme qui ne correspond pas très bien au monde végétal. Et autre chose, si vous parlez d'un individu, vous allez me dire, voilà, là vous ne nous voyez que dans un écran, donc vous ne nous voyez pas en entier. Mais normalement, si vous voyez un être humain dans la rue ou quelque part, vous allez le voir intégralement. Vous allez pouvoir vous faire une idée de cette personne en entier. Une plante, d'emblée, la plupart du temps, toujours peut-être, elles sont enracinées et donc vous ne verrez pas les racines. Donc déjà, vous n'avez pas l'intégralité du corps de la plante visible d'un premier regard. Donc voilà pour peut-être quelques éléments. Est-ce que Quentin, tu veux compléter? Ou dire autre chose?
Oui, merci Sophie. Enfin, j'ai pas grand-chose à ajouter, hein, ton introduction est assez claire. Ce qu'on peut distinguer, c'est trois formes d'individuation très générales. La première, c'est par la perception, hein, comme tu l'as déjà évoqué avec l'exemple du fait que ce qu'on perçoit comme étant une unité est considéré comme un individu. Donc, par exemple, le fait que je perçois la totalité d'un animal qui marche. Dans un champ, ça me donne. Je vois bien quelle est la différence entre le champ et l'animal. Je vois bien toutes les parties de l'animal, même si elles sont cachées, je peux deviner. Tandis que pour une plante, cette individuation par la perception pose problème parce que, d'une part, on ne voit pas tout, et qu'en plus, ce qu'on ne voit pas, on ne peut pas nécessairement le deviner, puisqu'il y a des plantes qui sont reliées dans le sol par leurs racines à d'autres plantes. Donc, vous pouvez avoir l'impression qu'il y a deux individus, alors qu'en fait, ils sont reliés sous le niveau de la terre ensemble. Parfois dans de vastes groupements qui sont assez homogènes. Alors, ça nous amène aux autres critères qui vont au-delà de la perception pour individuer les organismes, qui sont plutôt d'ordre biologique, hein. Et on peut alors là avoir des critères d'ordre physiologique ou fonctionnel, ou encore génétique. Et se dire que finalement, l'individu serait individué sur la base de son métabolisme, par exemple, ou alors sur la base de son génome. Le fait que deux plantes qui seraient reliées entre elles et fonctionneraient en étant reliées par leurs racines, en s'échangeant des nutriments, fonctionneraient comme un seul organisme, donc seraient quelque part un individu dans un sens plus proche que qu'on pourrait le penser d'un animal qui aussi fonctionne de la même façon. Mais là, il y a toujours le problème qu'on peut effectivement les séparer, donc, ce qui n'est pas le cas avec l'animal. Hein. Comme Sophie le disait, si vous coupez en deux un mammifère, il ne va pas survivre. Tandis qu'une plante, des plantes, même si elles fonctionnent de manière commune, on peut en général les séparer. Donc, de nouveau, ça pose de nouvelles difficultés. En fait, la biologie ne vient pas résoudre les problèmes d'individuation du végétal en apportant de nouveaux critères. Au contraire, elle complexifie, elle approfondit le problème. Et c'est la même chose au niveau génétique, par exemple. Là, Sophie est spécialiste de ces questions, donc elle aurait probablement aussi des choses à dire. Et donc, ça nous amène à une troisième manière d'individuer, qui est plutôt de concevoir l'individualité non pas comme une substance, un tout, un objet qui serait prédéfini, donné par la perception ou par des critères stricts, mais plutôt le voir comme un processus qui est toujours en train de se faire, de s'individuer par rapport à son milieu, par rapport à une forme d'unité qui dépend en fait de la façon dont des besoins sont remplis, dont de l'information circule au sein de l'organisme ou de la population, donc quelque chose de beaucoup plus souple en rapport avec le milieu, donc l'écologie et des relations qui sont nouées entre des organismes et qui font qu'à un moment, on peut avoir affaire à quelque chose qui s'apparente à un individu, mais c'est changeant dans le temps en fonction des relations, des besoins, etc., de l'information qui circule, qui peut évoluer.
Oui, donc finalement, ce que vous dites, c'est que la notion d'individualité conserve tout de même un sens, parce que, par exemple, dans l'article de Francis Allais, il penche plutôt vers l'idée qu'il s'agit de colonies. Donc, que c'est pas une agglomération, bien entendu, mais un ensemble structuré, bien sûr, hein, d'éléments qui se combinent, qui se configurent ensemble, certes, mais qui, alors je ne sais plus si c'est dans son article ou ailleurs, mais qui est un peu comme une société où, en citant donc Dupont de Nemours, hein, un savant et philosophe du XVIIIe siècle, où dont tous les membres simplement mangeraient ensemble au réfectoire. Donc, c'est une image assez rigolote quand même, donc, et parlante, mais qui suggère qu'en fait, c'est plutôt un ensemble, une société, si l'on veut, une communauté, plus qu'une individualité à proprement parler. Or, ce que vous dites là, c'est que finalement, et c'est ça qui est intéressant, hein, ça montre bien que justement, la capacité du végétal à élargir, à assouplir nos catégories, c'est que c'est la notion d'individualité, finalement, qu'on peut réinterroger à travers notre regard sur les plantes, parce que les plantes nous suggèrent une autre idée de l'individualité qui est moins une substance, une unité déjà faite a priori, mais une unité toujours en recomposition entre elles, entre tous les éléments qui la constituent et aussi en interaction en permanence avec le milieu. Sophie, je me rappelle que dans votre article, vous parliez également de philosophes du XVIIIe siècle, enfin 17e pour le premier, c'est Locke, même s'il est mort tout au début du XVIIIe, et Hume, donc deux philosophes anglais, hein, donc Hume au XVIIIe, s'inspirant bien sûr beaucoup de Locke, et qui tous les deux évoquent l'image de l'arbre pour réfléchir sur l'identité. Est-ce que vous voulez prolonger sur, là-dessus ?
Oui, je veux bien prolonger, parce que cette idée qu'a Francis Allais, donc un botaniste français qui est assez connu, très présent dans les médias, il est convaincu depuis très longtemps qu'un arbre, un chêne par exemple, pour parler d'un arbre emblématique, n'est pas un tout cohérent, mais est effectivement un ensemble de génotypes. Alors si on parle de génétique, l'une des choses importantes pour l'individu, c'est que pour qu'il tienne ensemble l'individu, il faut qu'il ait une certaine homogénéité génétique. Alors que si je vous prends un petit peu d'ADN dans vos cheveux ou à la pointe de votre orteil, je vais avoir la même information génétique, pour caricaturer un petit peu les choses. Et en fait, Francis Allais et d'autres auteurs, il n'est vraiment pas le seul, il se range dans cette lignée que vous avez suggéré avec Dupont de Nemours, dont je parle dans mon article sur les plantes cultivées, ils sont convaincus qu'un arbre est plutôt une colonie qu'un individu. Et en fait, moi, mon métier, c'est d'être généticienne des populations d'arbres. Et donc, il nous arrive très fréquemment dans ce métier-là d'aller échantillonner un arbre pour l'étudier d'un point de vue génétique. Et on ne se soucie pas de savoir si on prend un morceau de l'arbre en bas du tronc, en haut, une feuille, un bourgeon, différentes parties de l'arbre qui peuvent donner de l'ADN qu'on peut étudier. On ne se soucie pas de savoir si on le prend à droite, à gauche, en haut ou en bas. On prend ce qu'on arrive à prendre. Quand on travaille sur des arbres très grands, parfois c'est assez compliqué d'échantillonner une feuille. Et en fait, dans notre expérience de généticien des populations, je ne suis vraiment pas la seule, on a des informations génétiques très cohérentes à l'intérieur d'un arbre. Donc si on regarde un certain type d'informations génétiques, il y en a de toutes sortes, ça s'est beaucoup diversifié dans les décennies passées, mais on trouve quelque chose de très cohérent pour un même arbre. Et on est capable, comme c'est une chose que j'ai faite dans mes travaux de recherche, de retrouver le papa et la maman d'un petit chêne perdu si par hasard ils ne sont pas trop loin. Ils peuvent être plus éloignés, on peut ne pas les retrouver. Mais l'information génétique nous permet de reconstituer, par exemple, des liens d'apparentement entre arbres. Donc, ce qui prouve que la génétique de l'arbre, elle n'est pas complètement chaotique. Et si on avait affaire vraiment à des colonies avec plein d'informations différentes d'un point de vue génétique à tous les endroits, on n'arriverait pas à retrouver le père et la mère d'un arbre comme ça, d'un petit arbre, d'un petit descendant. Donc, cette idée de colonie, elle est ancienne. Ça remonte même à Théophraste, qui est le père de la botanique, 300 ans avant Jésus-Christ, c'est ça, Quentin, je ne me trompe pas, un grec. Et donc, même lui dit que les arbres sont des choses très, très variées, avec des organes très répétés, des feuilles en grand nombre. Et donc, cette idée, elle traverse la pensée occidentale de façon extrêmement constante. Et je peux vous offrir un aperçu de tous les gens qui ont dit des choses de cet ordre-là, qui disent dans l'arbre, ce n'est pas l'arbre qui est un individu, c'est le bourgeon. Donc dans ce cas-là, ils assimilent l'arbre non pas à un individu, mais à une colonie au sens des animaux qu'on ne connaît pas forcément très bien, des animaux colonières qu'on trouve dans la mer, comme les méduses, par exemple, qui sont constituées de petits individus qui s'agglomèrent, qui ont une vie de colonie, je connais assez mal le sujet, mais c'est comme ça que je crois que ça se passe, et qui après se dispersent et retrouvent une vie individuelle, entre guillemets. Donc, en fait, l'arbre est vraiment identifié à une colonie marine. Mais nous, généticiens, quand on étudie l'arbre, eh ben, ce n'est pas vraiment ça qu'on trouve, en tout cas, d'un point de vue génétique, on ne peut pas dire une chose pareille. Donc, et d'ailleurs, pour finir l'histoire, Francis Allais a publié ça dans de nombreux ouvrages, cette idée que l'arbre est une mosaïque génétique, et ça m'a donné l'idée de travailler sur l'individualité chez les plantes. C'est vraiment lui qui m'a donné l'idée, parce que j'étais choquée et je disais non, comme généticienne, je ne peux pas comprendre ce qu'il dit là, je ne peux pas être d'accord. Donc c'est d'autant plus important pour moi dans mon parcours de réflexion.
Oui, c'est aussi lié à la décentralisation constitutive des plantes. Le fait qu'il n'y ait pas une multitude d'organes qui soient répartis dans l'organisme, si du moins on peut employer ce terme d'organisme d'ailleurs, hein, pour les plantes, mais que qu'il y ait une sorte d'omnipotence de la cellule végétale qui contient en elle-même toutes les fonctions qu'on dévolue normalement à un organe particulier, quand on prend donc comme référent le modèle animal et humain. Donc cette décentralisation qui explique aussi pourquoi il y a des possibilités de réitération dont parle beaucoup Francis Allais, hein, c'est-à-dire comment un arbre nouveau peut par exemple croître sur le tronc d'un arbre abattu et apparemment mort, comment des arbres neufs, nouveaux, peuvent apparaître, qui ne sont en fait qu'une réitération à partir des cellules végétales de l'arbre antérieur. Donc, c'est cette décentralisation qui est quelque chose qui nous déstabilise, qui est quand même extrêmement étrange, comme si l'arbre nous regardait à travers 1000 yeux, comme si l'arbre nous regardait à travers 1000 organes qui sont disséminés dans toutes ces cellules. Et ce qui induit d'ailleurs, excusez-moi, je prolonge, l'idée chez Francis Allais d'une immortalité. Il y a aussi ce rapport évidemment à la vie et à la mort qui transparaît à travers notre interrogation, sur la réflexion sur, sur le végétal, et en particulier sur l'arbre, qui est une figure singulière. Hein. Les arbres, c'est toujours Francis Allais hein, qui le déclare, ont une immortalité potentielle, hein, du moins certains types d'arbres, donc ont une immortalité potentielle, parce que c'est lié avec, à son idée qu'il n'y a pas d'individualité véritable, parce qu'il y a toujours, grâce à cette décentralisation des fonctions, une possibilité de réitération. C'est donc évidemment le rapport à la vie, à la mort, et une manière de retourner sur ce qui nous angoisse de façon à la fois apaisante, il y aurait donc une immortalité potentielle possible, et en même temps totalement déroutante, dérangeante par rapport à nos repères.
Et cette question de l'immortalité, Quentin, vous pourriez peut-être en dire quelque chose?
Mais en fait, évidemment, tout ça est lié. Donc, effectivement, le fait que des généticiens, pas forcément des généticiens, mais des botanistes, en tout cas, aient défendu l'idée qu'il y aurait peut-être des génomes différents au sein de la plante comme une colonie, vient en fait renforcer cette idée très ancienne qu'on trouve déjà au XVIIIe et XIXe siècle, que les plantes, les arbres, par exemple, seraient des colonies, précisément parce que chacune de leurs unités, que ce soit les rameaux ou les bourgeons, a sa propre autonomie. Et en fait, au XIXe siècle, on a même mis en évidence que cette autonomie se jouait y compris au niveau de leurs cellules. Donc maintenant, on est en mesure de reproduire une plante entière à partir de n'importe laquelle de ces cellules, ce qui est totalement impossible chez la plupart des animaux, précisément parce que nos cellules sont différenciées et qu'elles occupent des fonctions au sein d'organes eux-mêmes différenciés qui sont chacun capable d'assurer des besoins différents de l'organisme. Chez une plante, c'est différent dans la mesure où elles sont très peu différenciées et à l'extrême, les cellules peuvent même se dédifférencier, donc perdre la spécialisation qu'elles ont acquise au sein des organes rudimentaires, hein, que sont les feuilles, les racines ou les tiges, en gros, pour acquérir de nouvelles fonctions, développer de nouveaux organes, etc., en fonction des besoins. Et donc ça a fait dire déjà, sans aller jusqu'au niveau de la cellule, en tout cas au niveau des boutures, donc des bourgeons, à des botanistes du XVIIIe et du XIXe siècle, mais voilà en fait le vrai individu, si on considère que le critère déterminant pour isoler ce que c'est un individu biologique, donc un organisme, c'est l'autonomie, c'est la capacité de subvenir à ses besoins de façon autonome, non pas au sein d'une société, hein, mais vraiment de façon indépendante. Et donc, comme chaque bourgeon peut, à l'extrême, s'il est bouturé dans des bonnes circonstances, redonner une plante entière qui va assurer ses besoins, ben assez naturellement, ces botanistes arrivent à la conclusion que du coup, l'ensemble des bourgeons forment une colonie d'individus, un peu comme l'ensemble des humains peut, à la limite, former une société humaine dans laquelle chaque humain peut entraider les autres, mais finalement, la véritable unité serait celle de l'individu comme personne ou de l'individu comme bourgeon. Et du coup, cette idée-là a donné lieu à celle plus contemporaine que peut-être il y aurait aussi dans cette diversité des individus qui forment la population, une diversité aussi de génomes, hein, puisqu'on observe parfois des phénomènes de mutation qui donnent du panachage ou des choses comme ça. Après, ce que Sophie souligne, c'est que finalement, c'est en tant que généticienne des populations, ces modifications pourraient être aussi anecdotiques que chez nous, des modifications génétiques qui donnent lieu à des cancers le sont. Donc, c'est-à-dire que ça existe aussi chez les animaux quelque part, mais est-ce que c'est synonyme vraiment caractéristique de ce qui constitue leur individualité? Pas forcément. Donc ça, c'est vraiment toute la question. Alors évidemment, cette conception de la plante comme une métapopulation, comme une population plutôt que comme un individu unique, bah donne lieu aussi au fait qu'elle est potentiellement immortelle, puisque si spatialement, en fait, chaque individu forme une unité autonome, bah, le destin de la colonie est pérenne tant qu'au moins un seul de ces individus continue à survivre. De la même façon qu'on peut dire qu'une société, une civilisation humaine serait potentiellement immortelle, tant que sa culture, par exemple, persisterait à travers certains individus. Donc, le problème, c'est qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de la métaphore quand on parle de cette immortalité potentielle, puisque d'un point de vue philosophique, l'immortalité n'est pas un concept qui est qui est de l'ordre de l'expérience, qui est quelque chose qu'on puisse attester. En fait, l'immortalité est quelque chose d'asymptotique. Enfin, on y tend, mais on ne peut jamais dire que quelque chose est immortel. On peut simplement dire qu'il est extrêmement vieux. Et donc, on a des arbres qui, effectivement, ont 4, 5, 5 000 ans. Est-ce qu'ils sont immortels? Bah, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont 4 ou 5 000 ans, voire des populations clonales, elles ont 30 000 ans, puisque le système racinaire ne cesse de se reproduire à travers un génome qui est commun. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont immortels? Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas affirmer, puisque l'immortalité est de l'ordre du concept.
Oui. Mais c'est Pardon. Allez-y.
Je peux compléter sur ce que dit Quentin. Sur la croissance des animaux, de nous par exemple, c'est une croissance qui est finie. Donc à partir du moment où l'embryon a sa forme avec tous les organes, etc., c'est terminé, il va croître pour être adulte, mais il n'y aura plus des nouvelles choses. Alors que chez les plantes, la croissance n'est pas finie. Alors qu'il peut, comme vous le disiez tout à l'heure, il peut y avoir des nouvelles unités qui apparaissent, et donc il y a une idée d'infini là derrière. Mais en fait, c'est comme dit Quentin, je trouve que c'est exactement la même chose. Cet infini, il est juste potentiel, mais ce n'est pas pour autant qu'elles sont immortelles. Potentiellement, elles peuvent croître jusqu'à 600 mètres de haut, mais enfin, ça n'arrive pas vraiment. Donc, c'est vrai que c'est un peu curieux. On est sur des choses un peu mouvantes.
D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que des philosophes, évidemment, se sont emparés de cette question par rapport à ce que les botanistes en disaient. Et donc, typiquement, par exemple, chez des philosophes du 19e siècle, il y a quand même un intérêt pour la botanique parce qu'il y a ce réservoir conceptuel pour penser autrement. Et notamment, Hegel considère que cette démultiplication de la plante, par exemple, est assimilée à ce qu'il appelle le mauvais infini. C'est précisément à l'humain qui fait retour sur lui-même dans son unité, qui est close, etc., à travers son intelligence, son esprit. En fait, le végétal incarne quelque part la pire instance de la nature puisque c'est une espèce de démultiplication qui ne vise pas à un accomplissement qui serait symbolisé dans la philosophie de Hegel par l'humain. Et donc, on voit que c'est aussi un moteur pour réfléchir d'une autre façon que sur le modèle animal. Après, entre guillemets, le problème que moi je vois et que d'un point de vue contemporain, on peut voir dans cette utilisation de modèles végétaux, c'est qu'elle est très souvent envisagée comme la plante, comme un mauvais modèle, comme quelque chose de négatif par opposition justement au fonctionnement de l'humain qui serait plus parfait, etc. Et donc, ben voilà, typiquement chez Hegel, c'est vu comme quelque chose de négatif, en fait, cette immortalité potentielle, parce que c'est un non-accomplissement, un défaut de perfection, et c'est le cas, en fait, chez la plupart des philosophes qui, jusqu'à présent, se sont essayés à penser un peu les végétaux, précisément, parce que, comme vous le disiez en introduction, ils le pensent toujours dans la perspective du modèle animal, par rapport à ce qui n'est pas, par rapport à l'animal, le végétal. Donc, forcément, comme quelque chose de défaillant, comme quelque chose de négatif. Or, les végétaux sont évidemment plus que ça, puisque cette totipotence, donc le fait que chaque cellule peut assurer de nouvelles fonctions, se renouveler, etc., n'est pas quelque chose qui, spontanément, devrait inspirer le manque, mais plutôt devrait on pourrait tout aussi bien mettre l'accent sur la puissance créatrice indéfinie d'invention de la nature, de renouvellement, de résilience, etc., qui a là derrière. Et là, on peut développer d'autres formes conceptuelles à partir de modèles végétaux pour penser des enjeux écologiques contemporains, par exemple. Donc, on voit que suivant les époques, les philosophes, évidemment, pensent le végétal en fonction des intérêts, des modèles de pensée qui sont dominants ou qui veulent utiliser.
Oui, mais à l'inverse, est-ce que la réhabilitation actuelle des capacités végétales ne va pas un peu trop loin, en allant jusqu'à prêter, par exemple, non seulement des capacités de communication très élaborées, hein, dont on ne peut pas d'ailleurs douter, hein, le coup très connu des acacias sud-africains qui déclenchent donc des productions gazeuses, etc., pour se défendre contre les incendies, parfois, ou d'autres qui se défendent contre les prédateurs et qui vont créer des toxines en même temps qu'elles par là, des prédateurs, des herbivores, des prédateurs des plantes. Et en même temps que par ces toxines, il y a aussi des substances qui vont prévenir les autres arbres de la présence de ces herbivores. Bon, bref, des capacités de communication, mais sur lesquelles on va en inférer qu'il y a aussi des capacités non seulement de perception très élaborées, mais même des capacités de conscience, voire d'intelligence. Est-ce que là, excusez-moi de l'image, mais est-ce qu'on ne pousse pas le bouchon un peu trop loin, comme si le balancier toujours allait trop dans un sens, par exemple dans la vision très négative ou privative à l'égard des plantes, et puis ensuite dans une vision qui peut-être va un peu trop loin dans le retour de ce balancier.
Alors en fait, je vais laisser aussi Sophie s'exprimer sur cette question, mais je pense que c'est assez lié au contexte zoomorphique que vous avez évoqué. Donc précisément, en fait, la plante est quelque part coincée dans notre tradition philosophique occidentale entre le modèle animal et puis le modèle minéral, la matière inerte. Et donc forcément, notre vocabulaire, nos concepts philosophiques ont été pensés soit un peu sur le modèle de la matière, de l'environnement naturel inerte, etc., pour penser les sciences physiques, la chimie, etc., ou alors se sont développés plutôt dans le domaine des sciences de l'esprit, des sciences humaines, pour penser la philosophie de l'esprit, l'anthropologie, la psychologie, etc. Et on a eu beaucoup de mal à développer quelque chose qui serait entre les deux et qui conviendrait bien aux végétaux, puisque même quand on réfléchit aux animaux, en fait, on a tendance à les mettre soit dans une catégorie, soit dans l'autre. Soit on réfléchit l'animal du point de vue de sa physiologie, de ses réflexes et donc quelque part de la matière. Soit on a commencé à le réfléchir du point de vue de l'éthologie par rapport à ses facultés psychiques, on va dire, qui seraient propres, qui se rapprocheraient de la subjectivité humaine telle qu'elle est pensée par la philosophie de l'esprit, la psychologie, etc. Et donc, on a beaucoup de mal à penser à un entre-deux. Et pour l'animal, quelque part, ça pose déjà des problèmes, mais ça peut se faire puisqu'on voit que l'éthologie, justement, et des arguments biologiques nous donnent de bonnes raisons de penser qu'il y a des analogies plus que d'apparence entre le fonctionnement d'un mammifère, par exemple, ou de tas d'autres animaux, et notre propre fonctionnement. Mais quand on va vers des formes animales, comme vous disiez tout à l'heure, invertébrés, des vers de terre, ou plus encore des plantes ou même des bactéries, on voit que là, l'insuffisance de cette espèce de cadre qui oppose d'un côté la matière, de l'autre l'esprit, est extrêmement problématique, puisqu'elle ne permet pas de penser à un entre-deux, des subtilités. Or, quand on réfléchit au comportement des plantes, on voit qu'on est amené justement à réfléchir précisément de nouveaux concepts qui permettent de faire la jonction entre les deux. Puisque le comportement d'une plante, précisément, se manifeste principalement à travers ses actions. Et donc, c'est quoi le comportement d'une plante dans la façon dont elle prend des actions? C'est agir directement à travers son corps par des modes de croissance différents. Donc, ce n'est pas l'action de la liberté d'un pur esprit, d'un pur sujet humain qui est capable de s'autodéterminer à travers un acte de pensée ou même à travers ce qu'elle ferait de façon beaucoup plus rapide comme un animal peut encore le faire. C'est vraiment entreprendre quelque chose à travers la façon dont elle agit principalement à travers son corps. Mais ce n'est pas réductible entièrement à ce qui se passe dans le monde inerte, puisque ça implique des formes de mémoire, de communication, etc. Et donc là, on voit en fait qu'on doit pouvoir penser de façon plus subtile le clivage. Le problème, c'est que c'est difficile, et donc on a cette tendance que vous évoquez à pousser un peu le bouchon trop loin, parce qu'on se trouve démunis conceptuellement aussi.
Oui, bien sûr. Sophie, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, je suis évidemment d'accord avec ce que vient de dire Quentin, et je trouve qu'il dit bien les choses. Ce que je voulais ajouter, c'est que c'est intéressant donc d'étudier les plantes sous ce difficile aspect des actions, comme il dit, de la sensibilité, pour ne pas dire intelligence. Et on assiste actuellement à une floraison de publications autour des arbres et des plantes en général sur ces questions. Et c'est vrai qu'il y a des choses intéressantes, mais il y a un petit problème pour moi, personnellement, c'est que parfois ça tombe dans le mystique. Et là, moi, scientifique, je ne peux pas vraiment aller dans ces domaines du mystique, mais pour autant, on peut quand même aborder ces questions-là de façon plus rationnelle, ou, je ne sais pas comment dire, mais qui font moins appel à des concepts très clairement. Et ce dont je me souviens, c'est de la critique d'un collègue écologue à propos de ce bouquin d'un forestier allemand qui s'était vendu, qui avait eu beaucoup de succès et qui contenait vraiment des choses très anthropomorphiques, mais à l'excès, vraiment, c'était des choses... La forêt est comme un supermarché, on y trouve tout. Ce genre de métaphore, je ne vois pas ce que ça apporte, et au contraire, c'est plutôt inquiétant sur ce qu'on va faire de la forêt après, mais passons. Et en fait, ce que disait ce collègue écologue, c'est que ce bouquin avait eu du succès, selon lui, aussi parce que les gens, les personnes autour de nous, en ont peut-être assez d'entendre parler de chiffres, on leur dit tous les jours, il y a 12 espèces de tel type d'individus, de tels organismes qui ont disparu aujourd'hui, il y en aura 12 demain. Donc, il y a une espèce de catastrophisme ambiant et ils veulent quelque chose de plus sensible, en fait, que ça. Et je trouvais que c'était une explication intéressante à cette espèce de floraison de bouquins sur les plantes et leur intelligence, entre guillemets. Un besoin de sens, un besoin de,
d'émotion. Oui, je comprends. Mais c'est sûr que les plantes sont vraiment quelque chose, enfin le monde végétal est quelque chose qui nourrit et alimente l'imaginaire humain de façon vraiment extraordinaire depuis l'aube des temps. Il y a une puissance imaginaire des plantes, c'est ce que montre bien, c'est les trois derniers chapitres du livre qui le montrent bien, hein, et en particulier comment, avec le dernier hein, de Timmermans, comment il y a une sorte de floraison de discours qui s'alimente, le discours humain donc est alimenté par le monde végétal et donc avec les images bibliques évidemment de l'arbre de la connaissance, etc., etc. Mais même les deux autres, donc juste avant hein, de Narder et Kochia aussi vont dans le sens de cette importance imaginaire des plantes. Mais on peut se demander aussi, mais c'est parce que c'est en même temps des capacités très troublantes que l'on découvre chez les plantes. On balance à la fois entre l'idée que c'est un peu trop dire que de parler d'intelligence et de conscience, et en même temps que c'est encore anthropomorphique finalement, parce que nous projetons en fait des catégories qui nous sont familières, et en même temps qu'il faut bien, comme le disait Quentin, trouver peut-être d'autres termes, d'autres notions pour rendre compte de ces capacités qui sont évidemment très très étonnante en même temps, de perception, de communication, de mémoire, etc., etc., avec des exemples particuliers qui sont donnés tout le long de votre livre, mais qu'on ne peut pas évidemment donc trop développer ici. Alors, par contre, du coup, on a abordé la question éthique. À plusieurs moments, on a effleuré la question éthique. Et ce qui est très intéressant, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait croire, le spectacle du monde végétal nous pose une question éthique, pas très forte, pas seulement quant au respect ou à la protection que l'on devrait avoir à l'égard des plantes, qui d'ailleurs est moins le problème de l'alimentation, puisque on peut, comme vous le rappeliez Quentin, sectionner une plante, en manger les fruits, etc., sans détruire la plante, contrairement à ce qui se fait quand on a affaire à un animal, hein, où on lui retire la vie en le consommant, mais pas tant donc pour la question de l'alimentation que pour la question du traitement hein, que l'on inflige aux plantes à travers donc l'agriculture intensive et industrielle, à travers bien sûr la déforestation dans le monde, etc. Donc ce traitement des particuliers, donc humains, anthropocentrés des plantes, une violence qui est faite, mais aussi dernière chose pour la piste éthique, c'est peut-être plus dans ce que les plantes nous suggèrent quant au mode d'être par rapport au monde, par rapport à nous, que la question éthique devient la plus intéressante, c'est-à-dire ce mode d'être très convivial hein, qui ne recourt pas, ou en tout cas extrêmement peu, à la prédation par rapport aux autres formes vivantes, qui cultive beaucoup plus donc des formes d'entraide, de solidarité, donc avec non seulement les autres plantes environnantes, quoi qu'il y ait des rapports de concurrence aussi, hein, mais aussi avec l'environnement, avec même les éléments minéraux, avec le sol, etc. Est-ce que cela ne suggère pas donc une piste éthique intéressante au plan humain également, qui est moins une piste d'individualisation, moins une piste de compétition, moins une piste de domination, et plus quelque chose qui tend vers une éthique environnementale. Il semble qu'il y ait comme une affinité entre l'éthique que l'on peut donc essayer de forger à partir de la considération des plantes, plus sur la solidarité, l'échange, etc., et l'éthique environnementaliste, parce que c'est moins resserré sur l'individualité et bien davantage sur la relation. C'est Emmanuel Kochia qui développait, si je me rappelle bien, donc ce thème de la relation. Qui voudrait reprendre?
Moi, j'ai des choses à dire évidemment sur cette question, mais Sophie aussi, puisque c'est un thème qu'on travaille notamment pour le moment. En réalité, c'est aussi lié à ce que je disais précédemment, à savoir que comme on a ramené les plantes plutôt du côté de la matière inerte du monde vivant, on en a fait en fait des objets. Et à l'heure actuelle, les techniques agronomiques, l'agriculture industrielle, etc., on a fait même un objet technique. Et donc, finalement, on a oublié que la, enfin, on a oublié, on a oblitéré, même on a omis, occulté que les végétaux étaient des êtres vivants pour en faire des objets techniques dans un système économique et industriel. Et donc, juste pour préciser ce que vous disiez, évidemment, certaines plantes peuvent être cultivées sans qu'on doive les tuer parce qu'on en cueille les fruits, etc. Mais la plupart des plantes doivent quand même être tuées pour qu'on s'en nourrisse. Donc, à ce niveau-là, il faut quand même être clair.
Bien
Et
sûr.
c'est une nécessité, voilà, de la chaîne alimentaire et du monde même animal, de se nourrir des végétaux, précisément parce qu'ils sont autotrophes. Donc parce qu'ils sont à la base de la chaîne alimentaire et qu'eux-mêmes sont capables de nouer des alliances beaucoup plus étroites avec leur milieu, dans lequel ils sont d'ailleurs la plupart du temps enracinés, et avec lequel ils sont dans une relation de co-constitution. Et donc comme les végétaux en tant qu'êtres vivants sont eux-mêmes en fait le milieu en train de s'individuer à travers eux et vice-versa, ça explique pourquoi une considération pour le monde végétal ne peut pas se faire indépendamment d'une considération pour le milieu et les écosystèmes et donc les relations avec lesquelles ils sont liés. Plus que dans le cas de l'éthique animale, où on peut avoir une considération pour l'animal en tant que, entre guillemets, sujet capable de souffrir, par exemple, ben dans le cas de la considération qu'on a pour les végétaux, on est obligé d'avoir une pensée écosystémique de l'ensemble. Ce qui ne veut pas dire que certains individus, entre guillemets, végétaux, ne peuvent pas être dignes d'une forme de respect pour eux-mêmes, hein. Mais c'est une autre question à ce moment-là.
Sophie, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Et puis peut-être après, on peut laisser la parole, donc, enfin répercuter donc, les questions de la part des participants, hein, donc pour, donc parce que le temps passe vite. Sophie, est-ce que vous auriez encore quelque chose, donc,
Simplement
question
pour rebondir
éthique?
sur ce que vient de dire Quentin, on s'intéresse tous les deux à la plante considérée comme une machine. Et en fait, c'est une chose ancienne et c'est toujours extrêmement présent, même dans la recherche actuelle. C'est-à-dire que si je peux me permettre de citer ce qu'on appelle les services écosystémiques, vous allez considérer qu'un arbre vous intéresse parce qu'il vous fournit des pommes, par exemple. Mais vous allez peut-être oublier que l'arbre a un intérêt en soi, a une valeur intrinsèque. Donc, c'est pour dire les choses extrêmement rapidement, je ne vais pas aller plus loin, mais c'est vrai que la valeur d'usage et la valeur intrinsèque, c'est quand même deux choses différentes, et la valeur intrinsèque, souvent, elle est un peu oubliée, notamment pour les plantes.
Très bien. Alors, bon, il y aurait encore beaucoup de questions, bien sûr, moi que j'aurais bien aimé aborder, mais peut-être que ça se fera justement avec les questions donc, qui vont être posées maintenant, hein, des participants. Notamment la question, par exemple, de la sexualité des plantes, qui est évidemment une question qui nous intéresse parce que elle est. Elle réaborde là encore, comme ailleurs, le thème de la sexualité de façon tellement différente que celle dont nous avons l'habitude. Donc voilà, donc d'autres questions encore, hein, que j'aurais aimé évidemment aborder, mais on ne va pas monopoliser la parole, donc, et on va laisser maintenant donc, la salle donc, pouvoir poser librement ces questions. Alors je vois déjà donc, dans la bande discussion. Donc, juste la référence à un livre. Donc, je lis en écho au commentaire de Sophie, trois regards sur le livre de Peter Wohlleben. Voilà, La vie secrète des arbres. Ah oui, je vois très bien aussi.
L'article que j'ai cité. Merci.
Pardon?
L'article que j'ai cité, en fait.
D'accord. Alors, voilà, donc autrement, donc, une question, donc, dont je me fais l'écho, je la lis, en renversant le questionnement, serait-il réducteur de rapprocher les sociétés de fourmis, de termites ou d'abeilles domestiques, caractérisées par une certaine homogénéité génétique, aux mutations près, et par l'existence d'unités, entre guillemets, spécialisées dans la réalisation de différentes fonctions fondamentales d'un végétal, considérées comme un ensemble ou société de phyromères, CF, unité spécialisée dans la reproduction, reine, fleur, dans la nutrition ouvrière, feuilles, racines, point d'interrogation. Donc, est-ce que vous...
Clairement, en philosophie de
On
la
a...
biologie, certains font le rapprochement entre des sociétés colonières qui ont une homogénéité génétique et ce qu'on appelle les métapopulations chez les végétaux. Mais tout dépend évidemment des critères qu'on va privilégier. Et si on privilégie un critère plutôt d'ordre fonctionnel, un critère d'ordre perceptif, un critère d'ordre génétique ou un critère d'ordre évolutionniste. Donc, par exemple, lié à ce qu'on appelle la fitness, la valeur adaptative, qui pour une colonie d'insectes, par exemple, se calcule au niveau de la colonie et pas au niveau de chaque fourmi ou chaque abeille prise individuellement, précisément parce que cette valeur adaptative implique de pouvoir calculer le succès reproducteur des organismes qui portent cette fitness. Or, les abeilles ou les fourmis ouvrières n'ont pas de succès reproducteur, elles sont stériles, elles ont donc de sens par rapport à la valeur adaptative que si on considère la valeur adaptative de l'ensemble. Et donc, certains veulent réfléchir les végétaux un peu sur le même modèle, en disant que ce serait peut-être chaque partie, comme on disait, chaque branche, chaque bourgeon, qui aurait sa propre valeur adaptative, étant donné que chacune peut se reproduire. Alors, parce qu'il n'y a pas de distinction claire entre les cellules somatiques et les cellules germinales chez les végétaux. Donc, en fait, il y a évidemment des parallèles entre les deux, mais tout dépend des critères qu'on va privilégier pour envisager ce que c'est un organisme ou un individu. Donc, je ne sais pas si Sophie veut rajouter quelque chose.
Ce que je peux dire, c'est que vous venez de citer les cellules germinales et les cellules somatiques, donc les cellules du corps et les cellules qui donnent des graines et qui donnent lieu à la génération suivante. Et en fait, on dit effectivement traditionnellement que dans une plante, des graines, il peut y en avoir partout. C'est-à-dire que n'importe quel bourgeon peut à un moment donner des fleurs. Mais ce qui a été démontré de façon assez récente, c'est qu'il y a des cellules qui sont protégées. C'est-à-dire que les cellules qui vont donner des graines et des descendants suivants, elles sont curieusement protégées, un peu comme ce qui se passe chez l'animal. Chez nous, les cellules reproductives, oui, chez les mammifères, elles sont à un endroit, c'est un stock qui existe souvent dès la naissance, elles sont protégées. J'ai un discours finaliste et c'est jamais bien, mais elles sont protégées dans la mesure où on évite d'avoir n'importe quoi dans la génération suivante. Et il semble que chez les plantes, contre toute attente, il y a des cellules qui sont protégées également, un peu comme chez les animaux. Donc finalement, on revient aussi, grâce à des données de la biologie récente et la biologie moléculaire notamment, on revient sur des idées qu'on avait avant. Donc je ne sais pas, c'est peut-être un petit peu à côté de la question qui a été posée, mais c'est pour dire que l'idée d'un arbre, c'est toujours l'arbre qui me vient à l'esprit, mais ça peut être une plante également, plus petite, comme un organisme, se défend quand même pas mal et pas vraiment comme une colonie. Enfin, pas des très bons arguments sur ce coup-là.
Oui, cette vision, cela revient aussi à la question de l'individualité, de la vision fédérative qu'on peut avoir de l'organisme. C'est une idée, en fait, qui est déjà présente chez des philosophes matérialistes, comme par exemple Diderot, qui considère que le corps, l'organisme, animal ou humain, est en fait quelque chose de communautaire, hein, de fédératif, précisément, et qui ne met pas. Bien sûr, ça tient aussi effectivement à une critique de la notion d'individu comme substance, hein, donc avec un fondement métaphysique, etc. Donc ce qui est hérité évidemment du XVIIe siècle et qui fait partie de cette critique que le XVIIIe adresse au XVIIe siècle, hein, dont en même temps le XVIIIe se nourrit d'ailleurs. Hein. Mais cette vision fédérative, hein, Diderot ne la lie pas spécialement aux plantes. Il prend un exemple qui vient d'ailleurs d'un médecin, Bordeu, celui de la grappe d'abeilles. Donc, pour dire que si les abeilles se fondaient ensemble, eh bien, elles produiraient un organisme. Donc, cette grappe d'abeilles qui correspond donc à donc qui correspond donc à ce qui est posé dans la question, hein, société de fourmis, de termites ou d'abeilles, hein, eh bien, Diderot voit une différence précisément avec un organisme plus achevé. Il ne dit pas plante, hein, mais on peut penser que c'est enveloppé, que c'est impliqué dans sa réponse. Il voit donc quand même une différence entre cette grappe d'abeilles et un organisme véritable, animal ou je pense aussi végétal, où il y a malgré tout une fusion plus forte et pas simplement des rapports de contiguïté comme donc dans la grappe d'abeilles.
Mais c'est pour ça aussi que je disais, selon les critères que vous privilégiez, vous allez considérer que c'est le même genre d'individu ou pas. Donc, du point de vue évolutionniste, comme je disais, voire génétique, on peut éventuellement considérer que c'est le même. Par contre, si on prend les critères très classiques qu'on trouve chez Locke, par exemple, hein, de la continuité, de la contiguïté, de l'unité dans le temps et dans l'espace, mais là, forcément, on peut voir une plus grande unité, continuité spatio-temporelle dans le cas d'un arbre, par exemple, qu'on peut l'avoir dans le cas d'une colonie où il n'y a rien à faire. Les individus sont quand même séparés spatio-temporellement. D'un point de vue de leur autonomie, ils sont aussi plus distincts, quoi. Alors, après, il y a, comme je disais, aussi d'autres critères biologiques. On peut dire que ce qui compte, c'est la façon dont des fonctions en termes de besoins sont remplies. Et donc là, bah, on peut dire que l'abeille ouvrière toute seule, elle est incapable de subvenir à ses besoins, elle va mourir, et donc elle n'est pas capable d'assurer une fonction de nutrition, de défense, etc., élémentaire, comme elle le ferait au sein de la ruche. Et donc, à ce moment-là, on peut considérer que, de nouveau, du point de vue de ces critères-là, c'est l'ensemble qui doit être considéré comme l'organisme. Donc, tout dépend en fait du choix des critères et des échelles auxquelles on se place.
D'accord. Enfin, ça va bien dans le sens, excusez-moi Sophie, juste de l'individualité comme processus, vous disiez. Sophie, donc, vous vouliez dire ?
Non, juste pour revenir sur un sujet qui m'intéresse particulièrement, l'idée d'une plante vue comme une mosaïque génétique, donc qui serait donc une colonie où chaque unité est génétiquement différente. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment très très peu d'exemples de mosaïques génétiques. J'espère que c'est assez clair comme terme, qu'on trouve dans la nature sur des plantes sauvages. Il y a un eucalyptus en Australie qui a une branche qui est moins mangée par les herbivores que l'autre. Donc, par celui-là, je ne peux pas vraiment vous en citer d'autres. En revanche, dans les plantes cultivées, on a plein d'exemples de mosaïques. Donc, les plantes cultivées, elles sont soumises à la main de l'homme, qui lui fait toutes sortes de misères, et ces misères, entre guillemets, enfin, le fait qu'on les contraigne à être taillées, à produire, toutes sortes de choses comme ça, ça a par exemple pour effet de favoriser ce qu'on appelle les transposons. Donc, dans l'ADN, c'est des bouts d'ADN c'est des gènes sauteurs que vous avez peut-être entendu mentionner ici ou là. Et ces gènes sauteurs, ces transposons, ils peuvent se mettre au milieu de gènes et transformer l'information donnée par le gène. D'accord. Par exemple, chez la vigne, qui est un exemple emblématique parce qu'elle est extrêmement étudiée, il y a beaucoup de moyens pour étudier la vigne, j'ignore pourquoi. Chez la vigne, par exemple, le pinot noir et le pinot blanc, qui sont deux cépages, le pinot noir est plus ancestral, il a des grains noirs, comme son nom l'indique, et le pinot blanc est plus récent, et en fait, c'est un transposon qui a fait changer la couleur des baies et qui a été repéré par les êtres humains et qui les ont ensuite greffés, et donc ils ont conservé ce cultivar, ce cépage. Et donc c'est vraiment la main de l'homme qui est à l'origine de modifications comme ça, très très visibles, mais dans le monde végétal sauvage, entre guillemets, on n'observe pas des choses comme ça.
D'accord. Oui, dans le livre, dans le chapitre, dans votre chapitre, vous montrez bien, c'est le titre d'ailleurs, comment les plantes cultivées peuvent cacher l'arbre du végétal et du végétal en général, dont le végétal sauvage représente bien sûr la forme qui serait normalement à privilégier. Et donc, ce qui est inévitable en même temps, hein, parce que dès lors qu'on va expérimenter sur une plante, eh bien, on va la faire passer d'un état sauvage à un état du coup cultivé. Donc, mais il y a toujours une sorte de biais, ce que vous montrez bien, parce que quand on cultive les plantes, on en affole en quelque sorte la variabilité. C'est un terme que vous utilisez. On en exacerbe la variabilité, ce qui fait qu'ensuite on va projeter des qualités qui sont finalement peut-être déjà là, mais bien plus développées que ne le sont naturellement, sur l'ensemble des plantes et remettre ainsi en question davantage l'individualité, par exemple, par les très grandes variabilités génétiques qu'on va introduire par la sélection des plantes, le bouturage, etc. etc. Donc, c'est très intéressant dans votre article de voir comment cette appréhension du monde végétal a été biaisée par un autre biais qui n'est pas celui du modèle animal, pour le coup, mais celui du modèle végétal cultivé. Alors, en attendant que peut-être d'autres questions, à moins que vous ayez quelque chose à dire là-dessus, Sophie, hein,
Non, c'est un biais. Est-ce qu'on peut dire que c'est un biais anthropocentré? Je pense que oui. C'est-à-dire que
oui, bien sûr.
L'être humain appréhende les plantes plus sous l'angle des plantes cultivées, qui sont des plantes qu'il a fait siennes, que les plantes lambda.
Bien sûr. Bien sûr. Oui. Et en même temps, cela permet une étude plus poussée des plantes, puisque par cet intérêt donc de l'horticulture, eh bien, on est évidemment poussé à essayer de comprendre davantage donc, les modes de fonctionnement, etc. Et donc, vous montrez bien comment historiquement ce couplage horticulture et botanique a pu fonctionner selon les pays différents, de façon différente.
Et moins bien en France où la génétique a mis du temps à entrer dans les.
C'est très intéressant d'un point de vue d'histoire des sciences, là, oui, en effet. Comment la génétique est venue plus tardivement, justement, oui, ou revenue, puisqu'il y a une première apparition avec Mendel et puis une réapparition après au tout début du XXe siècle, est revenue plus tardivement en France qu'ailleurs. Donc, oui, alors j'en profite peut-être en attendant donc qu'il y ait d'autres questions. Je surveille en même temps la bande discussion pour les voir apparaître, pour poser justement la question dont je parlais tout à l'heure. Hein. C'est d'ailleurs la question de la sexualité des plantes. Qu'est-ce que les plantes nous apprennent là-dessus? Quelle torsion elles impriment à notre regard sur cette notion?
C'est assez drôle.
Déjà, peut-être.
Ah, Sophie.
Je voulais juste donner une contextualisation historique de cette question et peut-être après, du coup, Sophie pourra, j'imagine, donner des éléments scientifiques plus contemporains.
Très bien.
Tout ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, là, cette question de la sexualité des plantes, elle est philosophiquement importante parce que pendant très longtemps, le clivage entre les animaux et les végétaux s'est illustré par le fait que les végétaux étaient censés être insensibles et immobiles et aussi par le fait qu'ils ne se reproduisaient pas de manière sexuée. Donc, la découverte de la sexualité des plantes, c'est assez récent hein, dans nos connaissances. Ça date du XVIIe siècle. Donc, on voit que pendant très longtemps, on a assimilé les plantes à des organismes qui n'avaient pas de sexualité, précisément parce qu'ils n'avaient pas de, on considérait qu'ils n'avaient pas de mouvement et pas de désir. Et donc, le fait de découvrir une sexualité des plantes de manière de plus en plus poussée dans l'histoire des sciences, est venu ébranler un peu aussi l'édifice scientifique et philosophique qu'on avait sur la place des végétaux par rapport aux animaux et aux humains. Et donc, ça a aussi déclenché toute une série de élevé aussi toute une série de tabous dans une certaine mesure parce que c'était plus facile de parler de la sexualité des plantes au 19e siècle que de parler de manière frontale de la sexualité des animaux et des choses comme ça. Donc, en fait, il y a eu un rapport très, très historiquement déterminant à cette question de la sexualité. Et puis, les plantes étaient vues comme inférieures précisément parce qu'elles se reproduisaient de manière non sexuée. C'était aussi un argument à leur infériorité, un peu comme ce qui relève de la génération spontanée qui est engendrée directement par la terre, n'est pas créée par un processus de mélange entre deux individus, etc. Donc, tout ça était vu comme plutôt négatif avant qu'on découvre la sexualité. Donc, tout ça a contribué à ces découvertes sur la sexualité, à réhabiliter un peu les plantes. Après, on sait aujourd'hui qu'il y a des modalités très complexes, beaucoup plus complexes de reproduction, y compris sexuée, chez les plantes que chez les animaux. Et donc là-dessus, voilà, peut-être Sophie peut en dire quelques mots aussi, je suppose.
Sophie ?
Oui, ce que j'ai trouvé intéressant en lisant, non pas de la biologie, mais d'autres types de lectures, c'est que le corps de la plante, il peut être vu comme l'inverse de notre corps, un corps ouvert. Tout est à l'extérieur, chez nous, tout est à l'intérieur, on a les organes, tout est caché. Alors que chez la plante, tout est montré et tout est réparti, comme on l'a déjà dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est comme s'il y avait des yeux un peu partout, dans toutes les feuilles, parce qu'elles perçoivent la lumière, les couleurs, etc. Donc, c'est vraiment une répartition très différente, une organisation très différente du corps, qui serait comme un être humain inversé. Et la sexualité ne déroge pas à cette règle, puisque ce qu'on voit de façon extrêmement claire chez les plantes, c'est leurs fleurs, et leurs fleurs, c'est leur sexe. Donc effectivement, je pense que, je ne sais pas si c'est au 19e siècle, la botanique était quelque chose que les femmes avaient le droit d'approcher. Hein. Et en même temps, peut-être vous direz les choses mieux que moi, parce que je connais mal ce sujet, mais en même temps, donc, c'était une façon, on leur dit, j'ai lu, c'est Charles Bonnet, je crois, qui dit ça, qui dit que les femmes, c'est une bonne façon de découvrir la sexualité parce qu'elles travaillent sur les plantes et donc ça reste tout à fait correct de faire ça et on apprend des choses. Bon, voilà, mais là, je m'éloigne de mon sujet biologique. Après, effectivement, la sexualité chez les plantes, c'est un truc extrêmement fascinant et ça concerne en premier chef les gens qui font de la génétique des plantes, comme moi, puisque c'est là que ça se passe, en fait. Et donc, je ne sais pas, c'est très factuel, mais il y a toutes sortes de combinaisons qui existent chez les plantes, entre des fleurs mâles, des fleurs femelles, des fleurs hermaphrodites, des arbres mâles, des arbres femelles, des arbres qui ont les deux types de fleurs, ou une seule fleur avec les deux. Vous avez toutes les combinaisons qui existent. Donc, au niveau sexualité, le monde végétal est extrêmement riche et propose absolument tout. Que dire d'autre ? Des tas de choses, certainement. Là, ça me vient pas.
Oui, c'est pas très moral tout ça, hein, quand même. Hein. Et effectivement, c'est devenu aussi de façon très, très principielle la base même de la classification avec Linné, donc 18e siècle, hein, de la classification végétale, hein, la distinction, donc les distinctions fondées sur le sexe et sur.
D'ailleurs, exclusivement ce qui lui a été reproché, parce qu'effectivement, la classification est uniquement basée sur la sexualité. Et il a laissé de côté le goût, l'odeur, les propriétés chimiques, ce qu'on en dit. Enfin, il a laissé tomber toutes sortes de qualificatifs qui étaient associés aux plantes jusque-là et qui se sont retrouvés à la marge.
C'est-à-dire qu'il recherchait aussi, enfin, je ne suis pas là pour défendre Linné, mais il recherchait un principe simple et appliqué de façon homogène. Donc, parce qu'il y avait aussi une floraison, c'est le cas de le dire, à l'époque, avec des tas de botanistes que vous connaissez mieux que moi, hein, les tourneforts et tous les autres. Donc, il y avait aussi une floraison, donc de tas de classifications. Il fallait donc un critère simple et toujours applicable. Je crois que c'était ça que recherchait en particulier Linné. Et puis, Linné a une vision aussi, en fait, il est très religieux aussi derrière. Hein, c'est une version très, très sérieuse, très, très sévère, hein, qui est celle du christianisme suédois. Et donc, en même temps, pour lui, il n'y a rien de mal là-dedans. C'est ce qu'offre le Créateur. Et le Créateur nous donne aussi des principes de classification visibles, donc il faut utiliser. Je crois qu'il y a aussi cette idée-là chez Linné. Alors, pour... Donc non, je croyais qu'il y avait une question nouvelle, donc j'appelle bien sûr les questions, n'hésitez pas. Hein. Alors j'en profite moi pour en placer, alors c'est un peu en vrac là, hein, parce qu'on saute un petit peu sur un autre sujet, c'est aussi parmi les alors de façon naïve, les questions qui peuvent naître quand on considère les plantes, on s'interroge sur d'autres choses, comme par exemple la veille et le sommeil. Pour nous, pour les animaux en général, les mammifères, en particulier, hein, il y a évidemment les mammifères et les vertébrés en général, il y a l'alternance, donc veille-sommeil, qui nous semble tout à fait naturel, comme une sorte de rythme fondamental de respiration du vivant, en quelque sorte. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose... Alors, apparemment, les végétaux ne connaissent pas ce départage. Et quelquefois même, donc je pense à certains philosophes, etc., il a été considéré qu'en fait, c'est... Ce sont des animaux qui dorment, du fond, sauf erreur, dit cela quelque part. C'est comme un animal qui dort.
Ben, en fait, par exemple, c'est aussi assez bergsonien comme manière de voir le végétal, comme une espèce de conscience endormie, etc. Mais là-dessus, en fait, je serais plus nuancé, parce qu'en réalité, la biologie, dès le 19e siècle, a mis en évidence que les végétaux avaient ce qu'on appelle des rythmes circadiens. Comme tous les organismes, même les unicellulaires, ont des rythmes circadiens. C'est une des caractéristiques qui, du point de vue de l'évolution, est une des plus anciennes caractéristiques partagées par tous les êtres vivants et qui fait qu'il y a une alternance entre ce qu'on peut appeler des cycles différents qui sont chez nous considérés comme la veille et le sommeil, mais chez des unicellulaires ou des plantes, sont voilà, des différences dans les cycles biologiques qui s'apparentent à notre veille et notre sommeil, puisqu'ils sont corrélés à l'alternance du jour et de la nuit. Et donc déjà, Linné en fait, a écrit un traité sur le sommeil des plantes en se demandant si les plantes dormaient, etc. Et du point de vue contemporain, on appelle ça en fait, la nyctinastie. C'est le fait qu'on observe des mouvements qui sont typiques de ce cycle entre guillemets, de veille et de sommeil, propre à ce qui se passe au niveau du feuillage des plantes pendant la nuit. Donc, chez certaines plantes, c'est plus manifeste que d'autres. Hein. Vous connaissez ces plantes qu'on appelle, par exemple, les belles de nuit ou des choses comme ça qui s'ouvrent pendant le cycle nocturne ou à l'inverse, qui replient leurs feuilles au tomber du jour, précisément parce qu'elles entrent dans une phase du cycle qui est plutôt corrélée à une phase de repos, quoi, puisqu'elles ne font pas de photosynthèse à ce moment-là. Et puis, il y a toute une série de processus métaboliques qui se mettent en place aussi pendant la nuit pour préparer la journée à venir. en anticipant en fait la longueur du jour, la quantité de nutriments dont la plante aura besoin en, par rapport à ce qu'elle a pu stocker en termes d'amidon et qu'elle va devoir consommer, etc., etc. Donc, il se passe des tas de choses aussi pendant ce cycle entre guillemets nocturne des plantes, de la même façon que pour nous, le sommeil est quelque chose de très important pour le corps. Donc, je serais beaucoup plus nuancé par rapport au fait qu'on puisse dire que les plantes n'ont pas de sommeil ou que ce soit dans une optique de nouveau très animale, des espèces de conscience perpétuellement endormie, parce qu'en fait, il se passe des tas de choses durant la veille des plantes, mais même pendant leur entre guillemets, sommeil, il se passe aussi des choses.
Peut-être qu'on peut citer ce qui a déjà été montré d'ailleurs dans la première conférence, la chronophotographie, qui a complètement changé notre rapport aux plantes, enfin on peut l'espérer, puisque ce que vient de décrire Quentin, on le voit dans des films où on prend des photos de plantes à intervalles réguliers de temps pendant assez longtemps et où tout d'un coup, en accélérant ce fonctionnement, on voit ce qui se passe, quoi. Enfin, tout d'un coup, ça correspond mieux à notre temporalité à nous et du coup, on a un petit mieux comprendre les plantes. Comment elles tournent pour aller s'approcher, pour les plantes grimpantes, il y a toutes sortes d'exemples, on en trouve de grandes quantités. Et il y a aussi, il me semblait une autre chose, il y a jour-nuit évidemment, il y a aussi les saisons. Par exemple, sur un tronc d'arbre coupé, vous pouvez voir les cernes de printemps, les cernes d'été, et donc la croissance n'est pas la même, et donc cette temporalité est inscrite également dans le bois, par exemple.
Mais ça correspond donc à des mécanismes internes en même temps, ou c'est simplement le cycle extérieur de la présence de lumière du jour et de la nuit, de présence de lumière ou pas, puisque la lumière est l'aliment premier des plantes par la photosynthèse.
En fait, c'est les deux. Donc, à la fois, il y a une part qui est entre guillemets programmée génétiquement au niveau des rythmes circadiens, et en même temps, il y a une part comportementale qui fait que, compte tenu de ces rythmes circadiens, il y a moyen pour la plante de s'adapter en fonction des contraintes. Et donc, dès le 19e siècle, en fait, des botanistes comme Candolle ont fait des expériences sur les rythmes circadiens, ont montré que la plante gardait en mémoire pendant un certain temps le rythme auquel elle était habituée, mais que si on changeait les contraintes de lumière, par exemple, qu'on fait des jours qui durent la moitié du temps de ce qu'elle devrait durer et des nuits qui durent aussi la moitié du temps, en fait, la plante va s'adapter en doublant son rythme. Et donc, en fait, elle a, si vous voulez, le bagage génétique, appelons-le comme ça, cellulaire, qui lui permet d'avoir une alternance au niveau de ses cycles. Mais elle a aussi la flexibilité comportementale, comme nous, qui fait qu'on peut adapter nos cycles. Donc, voilà, si vous êtes un infirmier que vous travaillez la nuit, ben, vous allez adapter votre cycle de sommeil en conséquence. Alors, si vous travaillez à pause, ben, à des moments différents de la journée, mais vous allez peut-être fractionner votre cycle de sommeil, entre guillemets, normal, pour réadapter un peu votre rythme circadien de façon cohérente. Donc, en fait, de nouveau, là, ce n'est pas un argument qui permet de dire fondamentalement que les plantes seraient différentes des animaux. Il y a évidemment des différences, mais disons que tout comme les animaux adaptent leur cycle jour-nuit, les plantes peuvent le faire aussi.
Alors, finalement, est-ce que l'on peut aller plus loin, revenir à des enjeux donc, qui étaient au départ donc, sur la réflexion philosophique, c'est-à-dire est-ce que finalement il y a tant de distance que ça entre les hommes et les plantes, ou est-ce que, parce qu'on voit tout ce partage finalement de choses en commun, hein, même donc la peut-être, enfin, ou quelque chose d'équivalent à l'alternance veille-sommeil, est-ce que l'on peut penser que finalement il y a plus d'unité au fond qu'on aurait pu le penser entre les hommes et les plantes? Enfin, ma question évidemment est un peu énorme et très ouverte, très indéterminée, mais enfin c'est quand même quelque chose qui est majeur. Voilà. Donc est-ce que vous pensez qu'il y a finalement, au fond, finalement, une plus de proximité qu'on aurait pu le penser?
Personnellement, avec des articles en biologie que je lis et qui sont parfois récents, la plupart du temps récents d'ailleurs. Cette réflexion me vient, alors je me demande si j'ai un biais anthropocentré ou si réellement les découvertes biologiques sur le fonctionnement des plantes nous montrent qu'elles ne sont pas si loin du fonctionnement animal que ça. J'ai une autre, toujours avec mes histoires de plantes, la variabilité intraplante d'un point de vue génétique, puisque c'est un sujet qui m'intéresse. Eh bien, il y a eu des études récentes qui ont été faites sur des chênes, sur d'autres espèces végétales, où ils cherchent ce qu'on appelle les mutations somatiques, c'est-à-dire les mutations qui ont lieu dans le corps de l'individu pendant la vie, qui malheureusement chez l'homme, par exemple, donnent lieu à des cancers. Parce qu'il y a une mutation qui ne devrait pas exister et qui vient mettre la pagaille dans l'organisme. Et donc, on a toujours pensé, alors c'est ce qu'on a déjà dit aujourd'hui, mais que les plantes avaient plus de mutations somatiques que les animaux. Et donc, ça a été étudié notamment chez un chêne qui n'est pas loin d'ici, dans l'unité dans laquelle je travaille. Et en fait, il démontre dans les quelques articles maintenant sur la question qu'il y a très peu de mutations somatiques qui existent dans un individu, même s'il a 300 ans. Ils ont trouvé de l'ordre de 20-30 mutations, et c'est sur tout le génome. Donc le génome, c'est un truc absolument énorme, où il pourrait y avoir des millions de mutations, et on en trouve une dizaine, une vingtaine, une quarantaine. Donc déjà ça va, pour moi, ça conforte mon impression que l'arbre, c'est plus un individu qu'une colonie, par exemple. Et donc le modèle animal est plus proche du modèle végétal qu'on pourrait le penser. Donc ça, c'est un exemple, mais il y en a d'autres.
Après, sur le fond, du point de vue philosophique, notre tradition, pendant presque 2000 ans, a essayé de penser la différence ontologique fondamentale qui existait entre l'animal et le végétal pour garantir une certaine hiérarchie et donc un certain ordre moral par rapport à ce qu'il était permis de faire à l'égard de la nature et pas à l'égard des autres humains, par exemple. Et donc, en fait, on a hérité toutes ces traditions et donc c'est beaucoup plus difficile de s'en départir en reconnaissant qu'il y a des affinités de plus en plus grande mise en évidence par la biologie et de l'interpréter en ce sens, ça c'est plus difficile que de se dire ben, en fait non, c'est pas vraiment la même chose, ça ressemble, mais finalement on avait raison, on a toujours eu raison de penser que les plantes étaient fondamentalement différentes des animaux, et si il y a des choses qui ont l'air d'être les mêmes, ce n'est qu'une apparence, ce n'est que la façon dont la biologie sera interprétée de manière anthropomorphique, etc., etc. Je pense que les choses sont beaucoup plus subtil que ça, et qu'il s'agit de se rendre compte qu'il y a des analogies réelles, et que on doit tenir compte en fait de ces avancées biologiques pour mettre en évidence des proximités réelles. Après, c'est toujours une question de degré, ça ne veut pas dire que parce qu'on met en évidence, par exemple, le fait qu'il y a des phénomènes de mémoire, de communication, d'apprentissage chez les plantes, ben, on peut directement en conclure, donc elles ont une conscience, donc elles se parlent, donc on peut leur parler, donc elles font de la télépathie, là, on voit qu'on n'a pas forcément des éléments expérimentaux qui vont dans ce sens-là. Mais là où il y a des éléments expérimentaux, comme ce que Sophie a donné, comme sur la mémoire, etc., on peut clairement dire qu'il y a une unité du vivant qui est beaucoup plus grande que ce qu'on avait pensé pendant des siècles.
Alors, j'en profite pour dire que, enfin, souvent, vous, dans votre ouvrage, vous semblez faire état d'une sorte d'hostilité, d'attitude très négative, globale envers les plantes. Or, ce n'est pas tout à fait, moi, mon sentiment personnellement. Je pense qu'il peut y avoir ça, mais je pense qu'il y a aussi une sympathie humaine fondamentale et très ancienne vis-à-vis des plantes qui ne peut pas se réduire seulement à l'intérêt utilitaire. Mais il me semble que même chez les philosophes, enfin c'est vrai qu'il y a ce biais hiérarchique et anthropomorphique très, très souvent, mais même par exemple Aristote, qui a été souvent dans l'ouvrage un peu stigmatisé comme un penseur un peu anti-plante et tout, eh bien tout de même dans la composition de l'âme chez Aristote, il y a l'âme végétative qui est commune donc aux hommes, aux animaux et aux plantes bien entendu. Et cette âme végétative est fondamentale, elle assure tout le fonctionnement corporel. Hein. Et il faudra attendre la révolution scientifique du XVIIe siècle pour que clairement cette tripartition de l'âme soit remise en question, en particulier par Descartes, pour expulser en quelque sorte l'âme végétative du fonctionnement corporel qui sera pensé comme analogue à celui d'une machine. Bon, ce qui peut sembler négatif, mais qui en même temps est un progrès hein, dans l'histoire de la biologie en même temps. Mais donc, dans les mentalités antiques, il y a une proximité aussi avec la plante, une intégration de la plante. Bon, les temples grecs, les frises, les chapiteaux des colonnes sont ioniques, sont des plantes des feuilles d'acanthe qui sont stylisées au départ. Alors, donc, il y a une sorte d'intégration, de sympathie, d'intégration et d'affinité profonde, je pense aussi.
Oui, vous avez raison. Hein. Je ne suis pas spécialiste de la philosophie grecque, mais en tout cas, Aristote s'inscrit en rupture avec la philosophie grecque qui a précédé. C'est-à-dire que les présocratiques et même Platon sont beaucoup plus enclins à créer une espèce de non-hiérarchisation nette entre les formes de vie et à reconnaître que, par exemple, chez Platon, il y a des peines et des plaisirs, y compris chez les plantes. Après, ça se trouve dans le Timée, donc on sait le rôle un peu mythique de ce traité parmi d'autres. Mais en tout cas, chez d'autres présocratiques, Empédocle, etc., c'est beaucoup plus clair que les plantes ne sont pas hiérarchisées par rapport à d'autres formes de vie. Entre guillemets, là où on peut être critique par rapport à Aristote, c'est qu'en faisant du végétal une étape de la tripartition de l'âme à travers cette âme végétative, il instaure aussi ce qui deviendra, surtout au Moyen-Âge, les fondements de l'échelle des êtres et donc de la hiérarchisation, y compris au niveau du traitement et de l'ontologie qui va en découler et dont nous héritons. Et donc, c'est plus là que se trouve le problème, en fait. C'est dans la réception aristotélicienne plutôt que dans Aristote en tant que tel. Après, oui. Aristote a un discours très privatif à l'égard du végétal et c'est à ce niveau-là que va se jouer, en fait, cette interprétation aristotélicienne ultérieure.
D'accord. Entendu. Je vous le concède. D'accord. Et puis, il y a l'amour du jardin aussi. Il y a le plaisir du jardin, de l'hortus romain jusqu'à ces magnifiques jardins qu'on voit fleurir au Moyen-Âge, à la Renaissance.
Mais il n'y a pas une association entre amour et haine pour les plantes? Moi, j'ai l'impression que ça va dans les deux sens, de façon très forte. Je ne sais pas, vous avez vu après les tempêtes, les gens, ils ont coupé 50 000 fois plus d'arbres que ce qui était nécessaire. Et pourtant, les arbres n'ont tué personne, en fait, ou très, très peu. Ils sont juste tombés. Et donc, j'ai l'impression que ça peut être l'amour pour le jardin, mais à côté de ça, on utilise du glyphosate, et maintenant, c'est de l'acide acétique pour faire disparaître toutes ces mauvaises herbes. Donc, je trouve ça très... Ouais, il y a deux côtés pour moi, il y a deux faces.
Je vois qu'il y a une question dans le fil de la...
Oui, voilà. Il y a aussi une question dans la bande discussion, donc on va la redire. Donc, hein. La plasticité au sens large n'est-elle pas tout de même un marqueur de la végétalité? Merci pour l'ensemble de vos réponses. Donc, je répète, la plasticité au sens large.
Oui, ben, clairement, c'est une des marques de la végétalité. Puis, c'est comme on l'a dit, c'est quelque chose qui caractérise la totipotence hein, des cellules et... donc la plasticité des fonctions, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez typique des végétaux, mais qu'on peut aussi retrouver dans des formes de vie animale, entre guillemets, plus primitives, j'aime pas ce mot, mais modulaires, par exemple, ou coloniaires, où on peut retrouver aussi cette forme de plasticité plus grande. Mais en tout cas, c'est clairement une des marques fondamentales de la vie végétale.
Mais c'est aussi lié à la contrainte de la vie fixée, où il faut s'adapter à ce qui se passe autour par différents moyens, parce qu'on ne peut pas se déplacer. Donc, c'est pour ça que c'est plus fort chez les plantes, mais ça existe quand même chez les animaux.
Oui, même d'ailleurs la croissance indéfinie, hein, chez les crocodiliens, par exemple, ou les boas et pitons, il y a une croissance indéfinie, en fait. Alors, je lis une question. Depuis l'Antiquité... Alors, c'est une question... Oui, c'est une question. Depuis l'Antiquité, et particulièrement avec la Renaissance, la plante est vue dans cette dualité poison-remède, le pharmacon. Et effectivement, donc, c'est une notion importante, hein, dont Derrida, par exemple, a beaucoup parlé à partir de Platon. Dans tout poison, un remède, oui. Le pharmacon, terme grec, effectivement, donc poison, la dualité poison-remède, qui signifie oui, effectivement à la fois un poison et un remède. Ça rejoint l'amour-haine dont vous parlez. Hein. Est-ce que cette dichotomie persiste aujourd'hui? C'est-à-dire, donc je pense, hein, si j'interprète bien, cette dualité donc poison-remède, négatif-positif, qui est associée étroitement. Alors, ça pose aussi le problème, effectivement, de l'utilisation pharmacologique hein, des plantes.
Sophia a déjà commencé à répondre en disant que, voilà, d'un côté, on est triste de voir que la tempête... abat des arbres, mais d'un autre côté on a peur que les arbres tuent les gens en s'effondrant sur eux, donc on va quand même les couper. En fait, c'est vraiment typique de cette dualité culturel qu'on a par rapport au monde végétal. Et donc, un auteur qui a très bien mis ça en évidence, c'est Alain Corbin, par exemple, dans La douceur de l'ombre. Il écrit un livre sur cette question. Il montre que depuis l'Antiquité, on hérite vraiment en Occident, dans notre imaginaire, de cette dualité entre des caractéristiques positives et négatives qu'on associe aux végétaux, qui sont à la fois familiers et inquiétants, à la fois poison et remède, etc. Et je pense que plus fondamentalement, d'un point de vue philosophique, on peut donner une interprétation de cela qui va au-delà de nos représentations, parce que les végétaux sont à la fois ce dont on dépend dans nos cultures sédentaires à travers l'agriculture, et donc en même temps ce qui nous menace par rapport au fait que la forêt peut toujours venir reprendre ses droits sur les terres agricoles, que les plantes peuvent toujours devenir indomptables. Et donc en même temps, on les dompte, mais en même temps, c'est un peu cette dialectique du maître et de l'esclave. En même temps, on en est dépendant, et donc en même temps, elle nous apporte des bienfaits, mais en même temps, voilà, l'échec des récoltes peut être à la source de la famine et de la déchéance humaine. Et donc, on est dans cette ambivalence d'un rapport de domination, de contrôle du monde végétal qui est une métaphore de la nature, en fait, et en même temps, une reconnaissance des bienfaits de cette nature qui nous menace. Donc, c'est toujours les deux, et ça explique pourquoi il y a vraiment une incarnation dans nos imaginaires très, très dualiste de cette figure du monde végétal, je pense.
Mais c'est la dualité que suggérait Sophie entre le jardin et la forêt. Le jardin, la nature à la fois domestiquée et embellie comme lieu de séjour, d'habitabilité humaine, et la forêt comme lieu sauvage, d'anti-civilisation en quelque sorte. Et c'est vrai que toutes les grandes civilisations ont poussé plus ou moins une déforestation. Je pense au Moyen-Âge, la grande déforestation donc à partir du XIe siècle, qui a permis donc, l'extension des surfaces cultivées et aussi l'érection des cathédrales, enfin à partir d'un peu plus tard. Donc c'est lié aussi civilisation et forêt et la Germanie, sous les Romains, qui est vu comme lieu des barbares et en même temps lieu d'une, et aussi les Gaulois d'ailleurs, la Gaule aussi, lieu d'une forêt impénétrable qui est toujours un refuge contre les armées romaines. Sophie, vous vouliez donc développer également ?
Non, j'ai trouvé intéressant la remarque de Tassagnallo, je crois, si je lis bien son nom. Et effectivement, je n'avais pas fait le lien entre le pharmacone et ce que je venais de dire sur Amorène, mais évidemment, il y a une vraie continuité et Quentin l'a bien dit également.
Oui, donc une question donc oui, c'est ça, Tassani Aleio, si je prononce bien, Aleio. Alors, il y a toujours donc du même intervenant, donc une précision. Je fais une thèse sur la partie souterraine des plantes, les racines, rhizomes, tubercules, etc. Et je travaille pour partie sur cette question de la dualité du pharmacone à l'époque moderne, au sujet de la racine, justement. Et vous avez déjà répondu, oui, très intéressant. Sophie. Alors, je vois qu'on arrive au terme, déjà, de notre session. Il est 14h30, donc... je pense que là, il faut donc clore. Tant pis si on avait peut-être encore des questions à poser. Merci, merci à tous, bien sûr. Donc, merci à Sophie, merci à Quentin, merci à la Mèche, à Constance et aux participants. Je vais repasser la parole peut-être à Constance pour la fin.
Oui. Je tiens à vous remercier très sincèrement Sophie, Jean-Luc et Quentin pour cette discussion qui était extrêmement intéressante. Je précise également au public que la prochaine rencontre aura lieu vendredi après-midi à 16h avec Catherine et Raphaël Larère au sujet de leur ouvrage qui s'intitule Penser et agir avec la nature. Voilà. Et je vous indique également que les rencontres seront disponibles pourront être revus sur le site internet de la Mèche quelques jours après leur diffusion. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Tous.